J'ai besoin plus de mystère.
C'est l'heure de nos filters.
Plus mystérieux encore.
J'aimais la figure mystérieux. Essayez de donner un mystère mystérieux.
Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de No Filter Podcast, l'épisode dédié à la photographie et pas que. Épisode 35, aujourd'hui, 100% Marseille, puisqu'aujourd'hui j'ai le plaisir d'être accueilli par Damien du laboratoire OLAB Marseille. Bonjour Damien, comment vas-tu ?
Bonjour, je vais très bien, merci. Parfait. Et toi ?
Écoute, merci beaucoup. Déjà, merci de m'accueillir et d'accepter de répondre à mes questions. On va faire une petite présentation assez rapide et puis de toute façon, vous allez voir que ça va se dessiner tout au long de l'épisode. Vous le savez, moi, je me suis installé cet été à Marseille. J'avais déjà repéré le laboratoire de Damien parce que j'avais déjà échangé avec les amis de Morifilm. On les salue. Et du coup, ils m'avaient parlé de Damien et j'avais eu le plaisir de rencontrer Damien. Alors, je vais faire une petite présentation plutôt et tu vas me dire si t'es d'accord avec ça. De ce que j'ai trouvé, des informations que j'ai trouvées sur toi, donc tu as commencé à pratiquer la photographie au début des années 2010. Tu as fait de la photo de presse, on retrouve des photos de presse de faites par ta personne dans différents papiers. Très souvent de choses qui sont propres un petit peu à ce qu'on abordait juste avant qu'on enregistre sur la culture hip-hop. Tu as une pratique du graffiti qui t'a amené à la photo, on va aborder ça. Là, vous le voyez pas, mais Damien a un grand sourire en se disant « Merde, mais jusqu'où il allait diguer, ce con ?» Et ben, Internet me permet de trouver pas mal de choses. Mais surtout, tu as ouvert et tu gères, avec une équipe, le labo OLAB. Est-ce que tu est-ce que tu es d'accord avec cette présentation ?
Oui, c'est juste.
Est-ce qu'il y a des choses que tu veux rajouter ?
Oh, pas vraiment, dans les grandes lignes, t'as tout juste. Non, je vois rien, je vois pas quoi rajouter. Hein.
Comme je disais, on a pu voir ton travail dans la Provence, sur des articles sur le graffiti, on a pu voir ton travail aussi sur les pages de 20 minutes pour les 15 ans du groupe Chinese Man. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et de comment tu en es venu à la photographie ? Comme je disais tout à l'heure, tu as commencé par le graffiti ou tu as baigné dans l'univers du graffiti comme un petit peu pas mal de personnes de nos générations. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ça ?
Bien sûr. Du coup, en fait, comme on en parlait juste avant de commencer ce podcast, j'ai baigné dans la culture hip-hop. Et je baigne encore dans la culture hip-hop à travers différentes pratiques. Avant de faire du graffiti, j'ai fait du skate aussi, du basket, beaucoup de dessins. Et effectivement, à l'adolescence, quand j'ai commencé à prendre des bombes de peinture, je suis allé dans des endroits un peu insolites, dirait-on.
Interlope.
Voilà. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai acheté mon premier appareil photo, un petit compact Canon XU60, pour pouvoir faire des photos de nuit. Et en fait, à partir de là, j'ai jamais arrêté de pratiquer la photographie en autodidacte. Je suis quelqu'un d'assez technique, j'aime bien comprendre ce que je fais. Donc du coup, j'ai poussé un peu mes recherches à travers des livres et les revues. Et puis du coup, tout ça en parallèle de mon activité de graffeur. Et voilà, et donc ça a été beaucoup de souvenirs de collègues, de soirées arrosées, de plein de choses autour de la culture hip-hop. Et en fait, cette passion pour la photographie, à un moment, a pris le dessus sur ma passion pour le graffiti. Et en fait, j'en suis arrivé à un point où j'ai essayé d'explorer encore plus l'horizon de la photographie. Parce que entre 2010, où j'ai commencé vraiment à prétendre faire des photos, et 2016, il y a eu toute une partie où j'ai essayé de que ce soit rémunérateur pour moi aussi. Parce que étant un peu perdu dans, comment dire, surtout dans l'exploration de ce que je voulais faire dans ma vie, je me suis aperçu que je voulais être photographe. Mais par quel biais ? Les possibilités sont infinies. Et ce qui m'a montré aussi que la photographie a pu être le point qui relie toutes mes passions. Entre le skate, le basket, le graffiti, la musique, la vie, la mémoire collective, tout ça en fait, ce qui a fait que c'est devenu le point central de ma vie, en fait. Et puis, puis au bout d'un moment, en fait, voilà, j'ai continué un peu à explorer tout ça. Et puis, un jour, il y a une amie qui m'a dit « Ah, bah, j'aime bien tes photos, tu pourrais pas faire mes photos de mariage ?» Du coup, bah, là où ça a basculé, c'est là où ça a basculé au niveau déjà de la confiance en termes de photographe, quoi. Faire des photos de mariage, on peut pas se manquer. Enfin, on n'a pas le droit de se manquer. On peut pas le refaire une deuxième fois, techniquement. Et puis voilà, après, à partir de là, ça a été une longue série d'expériences photographiques, numériques, quoi, surtout à cette époque, hein, jusqu'à arriver en 2016, où j'ai découvert la photo argentique. C'est loin et en même temps, c'est près, toute cette histoire.
Ça transpire un petit peu de ton, j'allais dire, de ton parcours. Forcément, comme je viens d'arriver sur Marseille et que bah, c'est un nouveau terrain de jeu que je dois explorer, que je savais que j'allais interviewer Damien, j'ai fait des petites recherches sur Damien, sur Olab, et ça va transpirer tout au long de l'épisode. Tu as toujours une page, pardon, sur Lens. On retrouve justement différentes choses de ta pratique. On va retrouver de l'urbex. On va retrouver la photo, justement, ce que tu appelais un petit peu la mémoire collective. On va retrouver des choses peut-être plus spécifiques, propres à Marseille, et qui, je trouve, dégagent bien cette énergie à laquelle moi je découvre ici et à laquelle je me confonds un petit peu tous les jours. Donc tu me disais, 2016, l'arrivée de l'argentique dans ta vie, t'avais pas fait d'argentique avant?
Non, en fait, je suis né en 86. À l'époque où je faisais du graffiti, l'argentique, c'était encore présent, mais c'était vraiment plus qu'en second plan par rapport à la photo numérique. C'était une évidence pour moi de m'acheter un appareil photo numérique pour la facilité. Voilà, c'était l'air du temps, quoi. Et entre 2010 et 2016, j'ai bouffé de la photo numérique à gogo. Je me suis acheté un premier appareil réflexe, Nikon D300. Quand je suis passé au réflexe, quoi, après le Canon. Et puis en fait, au bout d'un moment, je me suis confronté à un truc où j'avais l'impression que j'étais bridé dans ma pratique. C'est-à-dire que l'acte photographique en lui-même m'apportait beaucoup de plaisir et m'apporte toujours beaucoup de plaisir, mais il manquait un maillon, en fait, à cette passion. Étant donné que ma première passion, c'est le graffiti, il y a quelque chose de très... il y a quelque chose de physique. J'étais avec des bombes de peinture, l'odeur, l'univers, la démarche. Et en fait, en 2016, je me suis dit, en fait, j'en ai marre de passer ma vie devant Lightroom. J'en ai marre de j'aimerais aller plus loin, en fait. Et en fait, ma mère m'avait donné un boîtier argentique, il y a des années avant. Et je comprenais même pas pourquoi m'en servir, quoi. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas essayer la pellicule? Parce que j'ai pas envie de rester devant Lightroom toutes mes soirées, et peut-être qu'y revenir aux fondamentaux, mettre une pellicule dans un boîtier argentique, maintenant que je maîtrisais bien la technique. Et en fait, à partir de ce moment-là, tout a basculé. En fait, mon premier film, ça a été la révélation sur le reste du monde de la photographie pour moi. Du coup, j'étais assez seul quand je faisais de la photo numérique. C'est-à-dire que, bon, je prenais les photos, urbex, pas urbex, photos de presse, enfin, bon, bref. Et puis après, le soir, editing, et puis voilà, quoi. Tout restait dans le disque dur. Et une fois que j'ai testé, du coup, l'argentique, il fallait que j'aille dans un labo. Donc, déposer ma pellicule, attendre, voir, comprendre que c'est comme si je faisais un retour à la base, quoi, du coup. Et puis là, en fait, je me suis dit, bah tiens, quitte à faire de l'argentique, vas-y à fond. Et du coup, j'ai cherché une maison pour tous dans laquelle pouvoir faire du tirage. Parce que ça, c'était l'autre step pour moi à passer. Faire du tirage, apprendre à développer mes pellicules. Et en fait, du moment où je suis rentré dans une darkroom, là, ça a été, j'ai relié mes deux passions. Ma passion pour le graffiti et ma passion pour la photo. C'est-à-dire que du coup, je retrouvais la même temporalité. C'est-à-dire, je passais mes nuits à dessiner, l'odeur, le papier, le choix du papier. Voilà. Et là, du coup, j'étais confronté au même choix, quoi. Quel papier j'ai utilisé, quel révélateur, comprendre, pouvoir explorer les horizons du tirage, plus ou moins contrasté, plus ou moins, enfin, j'ai même après poussé mon expérience en mettant justement du révélateur dans des marqueurs de pour taguer quoi, pour pouvoir révéler mes photos à travers les outils que j'utilisais dans le graffiti. Et du coup, en fait, là, j'ai dit, en fait, tout ça prend son sens.
C'est vrai que c'est quelque chose qui peut manquer quand on fait de la photographie argentique, alors tu l'as bien dit, hein, des heures, des nuits sur Lightroom, quitte à faire vriller des personnes. Je vous rappelle que, à mon sens, je suis pas le seul, hein, y a une grosse partie de l'industrie pro qui considère ça. Lightroom n'est toujours pas le meilleur logiciel d'érotiseur et toujours pas le meilleur logiciel pour développer vos RAW, mais ça, je vous laisse tranquillement vous mettre ça sous l'oreille. Ce que tu dis, ça fait un lien avec l'épisode 32 qui est sur le print et l'épisode 33 sur les labos argentiques. Vous pouvez même aller voir l'épisode 17 sur Paris Graphie. C'est vrai que le photographe numérique, enfin Depardon avait une phrase sur la photographie qui dit, je vais pas le citer parfaitement, mais en gros c'est le photographe et l'acte photographique est un acte extrêmement solitaire, ce que je comprends complètement puisque c'est... Pour rappel, une photo, c'est pas objectif, c'est venir montrer le monde d'une certaine manière, décider de ce qu'on met dans son cadre, donc ça veut dire ce qu'on sort de son cadre, comment on travaille, comment on développe. Et c'est vrai que peut-être un des seuls moments dans la photographie numérique où on retrouve un petit peu ce qu'on peut avoir dans la photographie argentique, à savoir quel type de papier, barité, les différents bacs, l'agrandisseur, c'est un petit peu, si on a la chance de travailler avec des imprimeurs pro ou qu'on soit, c'est quand vous allez voir votre imprimeur et qu'il vous dit, bon, ah bah alors moi je travaille sur tel traceur, là on peut travailler sur tel papier annuleux, ça c'est pour du noir et blanc, et c'est là où on retrouve le côté un petit peu, justement, très physique de la chose. C'est pour ça que je pense qu'on est aussi assez nombreux à dire de manière générale, allez imprimer vos photos. Si vous faites du numérique, si vous faites de l'argentique, bah, trouvez-vous des gens sympas avec qui prendre des cours de tirage et si vous n'avez pas la possibilité d'avoir de faire du tirage chez vous, mais je vais dire ça a quintessence. Non, mais c'est la suite et c'est la prolongation, c'est vraiment l'acte final de l'acte photographique. Je vous dis pas que si vous faites de la photographie qu'en numérique ou en argentique et que vous récupérez vos scans, enfin vos films, que vous les scannez et que vous restez jamais sur un écran, vous n'êtes pas photographe, absolument pas. Je dis juste que peut-être c'est le rapport physique au médium, puisque depuis tout à l'heure tu nous parles de médias et de médium, ou du moins d'un média à travers un médium, c'est quelque chose qui va rendre la chose très, très vivante au final et la plus intéressante. Tu nous as parlé un petit peu effectivement des parallèles que tu pouvais trouver entre le graffiti et la photographie argentique. Alors, je vais mettre des petits biais comme ça au fur et à mesure. Tu te souviens de ton... Et ça n'a pas d'importance si tu me dis non, c'est pas grave. Est-ce que tu te souviens du type de boîtier, le premier boîtier sur lequel tu as travaillé, du coup, et ta première pellicule, c'était quoi? C'était de la couleur, c'était du noir et blanc?
Alors, donc mon premier boîtier argentique, c'est un Pentax ME, super. Avec, en première pellicule, une Kodak 400TX. Classique shit.
C'est ce que j'allais dire. Vous l'entendez pas, mais j'ai levé les yeux aussi en me disant, mais bien sûr, voilà. De la 400TX.
Pourquoi noir et blanc? Pourquoi cette pellicule? Parce que voilà, j'avais déjà aussi cette envie de pouvoir développer et tirer moi-même mes photos. C'était important d'aller dans ce sens-là. Sachant que maintenant, on peut le faire aussi avec plus facilement avec la pellicule couleur, hein, avec le RA4, mais à l'époque, moi, j'avais même pas connaissance de ça. Je savais qu'en noir et blanc, je pouvais déjà le tirer, mais pas en couleur. Enfin, ça paraissait compliqué, quoi. Mais sur le noir et blanc, c'était, ça avait l'air plus accessible.
Alors, je remets les choses dans le contexte. Hein. J'ai vraiment découvert, au sens qu'on aborde là, la photo argentique quand je suis rentré au Beaux-Arts au début des années 2000. Je vais pas dire de bêtises. Alors, j'imagine que ça a changé depuis, surtout avec la recrudescence de la photographie numérique et des vrais boîtiers pro numériques auxquels on peut se former en école. Du moins, à l'époque où j'ai commencé, je pense que la majorité des écoles faisaient apprendre le développement sur du noir et blanc, parce que ça reste le plus simple. Et on était aussi à une période où malheureusement, pas comme aujourd'hui, enfin aujourd'hui c'est différent, parce que ça, il y a une recrudescence et ça revient, mais il y a une époque où quand on voulait acheter de la chimie, Ilford allait nous dire si on avait une commande, je sais pas moi, de X bidons ou peu importe, ou de certaines quantités de papier, le fournisseur, que ce soit Ilford ou autre, allait nous dire bah en fait là on n'a pas assez, en fait. Parce que tout le monde veut, et on doit essayer de ménager tout le monde. Et ça, c'était une époque qui était un petit peu différente sur Argentique, et qui maintenant revient un petit peu, au contraire, un petit peu plus en force. D'où cet épisode, et d'où le podcast aussi. Une question, cette fois, sur Olab. Pareil, je me base sur les informations que j'ai trouvées. Donc tu me dis si à un moment, je me plante et s'il faut corriger le tir. Olab a débuté comme une association en résidence dans les ateliers Juxtapose, au couvent Le Vas de la Belle de Mai, si je dis pas de bêtises. Comment est née cette association? Alors je sais qu'elle n'est pas née, que t'étais pas seul dedans, donc forcément je t'emmène vers ça. Comment est née cette association, et avec quelle volonté, à quel moment ça arrive? Tu nous dis, voilà, début 2010, la photographie, ça me permet de garder des traces, effectivement, de mes tranches de vie, de ce que je produis en graffiti. Ensuite arrive l'argentique, on est en 2016, si je dis pas de bêtises. J'imagine que la création de Olab en tant qu'association doit être quelques années après, mais à quel moment tu t'es dit « Ok, là, on va en faire une association et on va faire évoluer la chose vers autre chose ensuite ?»
Alors, comme je te disais, en 2016, j'ai ouvert le champ des possibles avec l'argentique. Enfin, du coup, ma vie a basculé. En fait, ça allait très vite. Étant donné qu'à cette époque-là, en fait, je venais de quitter mon job alimentaire en 2016. J'avais tout le temps devant moi pour me mettre à fond dans la photo argentique. En même temps, je bossais en tant que photographe freelance, donc j'avais pas mal de temps, et puis j'arrivais pas mal à bosser en photo. Et en fait, comme je te disais, je suis allé dans une maison pour tous pour pouvoir apprendre à développer et à tirer mes photos. À un point où, en fait, où même là, je me sentais bridé par rapport aux plages horaires dans lesquelles je pouvais aller dans cette maison pour tous. J'étais vraiment matrixé par la photo argentique, c'est-à-dire que c'était tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, j'en veux plus, je vais monter mon propre labo. Parce qu'en fait, je veux pouvoir y aller le week-end, je veux pouvoir y aller la nuit, je veux pouvoir y aller n'importe quand. Donc, 2016 est passé. 2017, je trouve enfin un atelier, aux ateliers Juxtapose. En fait, avec un projet, en fait, je l'ai pris par un... À cette époque, je faisais des portraits d'artistes qui faisaient bouger Marseille, enfin des gens qui faisait bouger la culture marseillaise. Et en fait, je suis allé aux ateliers Juxtapose pour trouver un atelier. C'était full, et j'ai forcé la porte, en fait. J'ai dit, mais il me faut absolument un atelier, il faut que je... Voilà, donc à travers le portrait que j'ai tiré de l'équipe de Juxtapose, j'ai lancé encore ma bouteille à la mer, même si je m'étais déjà pris un nom, et en fait, j'ai réussi à avoir un oui. Ils m'ont montré une pièce qui n'était qu'une pièce de débarras. Ils m'ont dit, ben voilà, on a que ça à te filer. Si tu veux le transformer en atelier, libre à toi, mais on ne peut rien faire d'autre. Et en fait, j'ai, avec un collègue qui s'appelle Julien Tivernet, qui cherchait lui un espace, un bureau pour pouvoir bosser, j'ai monté mon premier labo à l'atelier Juxtapose. Donc 2017. Et ce labo n'était destiné qu'à ma pratique. Donc c'était juste pour pouvoir faire du développement et du tirage quand je voulais. Et en fait, j'étais tellement à fond que, au bout d'un moment, j'ai voulu le développer, quoi. Donc j'ai commencé aussi à donner mes premiers cours de développement argentique pour apprendre à développer son film noir et blanc. Voilà. Parce que je donnais un peu des cours de photo numérique à travers une plateforme française. Et en fait, j'ai transposé ça à l'argentique. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas aussi transmettre ce savoir à des gens qui seraient intéressés. Et du coup, en fait, j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient intéressés. Et du coup, ben, il faut savoir que ce premier labo mesurait 10 mètres carrés. Ensuite, j'ai rencontré une autre personne dans ma vie qui s'appelle Florian Gosselin, à Jean Cader, avec qui on a beaucoup échangé et avec qui j'ai partagé le fait de vouloir développer ce labo en quelque chose de beaucoup plus grand. Et en fait, en 2018, Olab est devenu une association. On a changé d'atelier. On est passé de 10 mètres carrés à 70 mètres carrés. On s'est fait un petit studio photo. On s'est fait un grand labo, une grande darkroom. Et en fait, c'est parti de là, en fait, on est passé à 14 photographes, en fait, dans cet espace.
C'est le moment où, du coup, Olab n'est plus juste devenu, j'allais dire ton projet, c'est pas ton projet, c'est que tu viens de nous dire que quand tu es arrivé à avoir cet atelier à Juxtapose, c'est parce que justement par rapport à la maison pour tous, tu voulais pouvoir faire peut-être des sessions plus longues, pouvoir y aller à des moments où c'était fermé, et que du coup, ça t'a permis, l'atelier à Juxtapose t'a au contraire, lui, permis d'avoir les mains beaucoup plus libres pour travailler, mais si j'ai bien compris, comme tu l'as dit, t'étais toujours que sur ta pratique, et c'est à partir de 2018 où là, tu vas commencer à faire quoi, des stages, des formations, des cours, mais vraiment en mode associatif.
Exactement. En fait, cet espace-là, en fait, comme je t'ai dit, à un moment avec la photo numérique, je me sentais vachement seul dans ma pratique. La photo argentique, ça m'a ouvert les portes sur d'autres techniques, mais je me sentais quand même un peu seul. J'ai cherché à rencontrer des gens autour de la photo argentique à Marseille. Et j'ai rencontré un collectif qui s'appelle Post 37, dans lequel on faisait des sessions de tirage aussi, mais dans un garage chez Christian, justement, pendant un moment. Mais moi, j'avais toujours ce désir d'avoir un lieu fédérateur, en fait, à travers un atelier ou à travers... un peu comme dans le graffiti, en fait, où on se retrouve autour d'une passion commune, on peut échanger, et en fait, du coup, on mutualise un peu le matériel et puis on peut justement voir plus grand. Et dans mon premier atelier de 10 mètres carrés, c'était un peu compliqué. Et quand j'ai vu qu'il y avait la possibilité d'avoir un plus grand atelier, j'ai eu un déclic. Et je me suis dit, là, ça y est, tu peux faire plus grand, quoi. Du coup, j'ai appelé tous mes collègues photographes avec qui j'ai rencontré pendant 2 ans, que j'ai rencontré autour de la photographie argentique. Et j'ai dit, les gars... Je monte un labo avec Florian, vous êtes chaud. Et du coup, il y avait un loyer assez conséquent, parce que voilà, on était quand même dans un truc de payer un loyer. Et du coup, c'est devenu une asso, parce qu'il fallait formaliser aussi les choses, quoi. Mmh. Seul, c'est d'avoir un local pour soi, c'est facile, mais une fois qu'on est 14... Faut que tout ça devienne administrativement parlant. Voilà, exactement. Donc c'est devenu une association par ce biais-là. Et puis du coup, ça a duré 2 ans, même plus. Ça a duré jusqu'à fin 2021. Le couvent. On a vécu une belle aventure, et en fait, à travers cet atelier. Voilà, j'ai animé encore plus d'ateliers de développement, de tirage. Et puis en fait, j'ai commencé aussi à m'intéresser au développement couleur. Parce que du coup, voilà, vu que j'adore apprendre, développement de noir et blanc, voilà, j'étais bien rodé pendant quelques années. Et d'un coup, j'entendais toujours dire « Ouais, mais la couleur, c'est compliqué. » « Ok, c'est compliqué, mais pourquoi c'est compliqué ?» Du coup, j'ai compris pourquoi. Du coup, avec un collègue, j'ai dit « Vas-y, t'es chaud, on s'achète une Jobo et on fait du dev couleur. » Donc on a acheté une machine Jobo et c'est parti, quoi. Et à partir de là, on a exploré encore un autre univers qui est le développement C41. Et puis à partir de là, on s'est dit, il y a quelque chose à faire à Marseille.
Je le reprécise, pour les personnes soit qui découvrent le podcast, soit qui suivent le podcast depuis bientôt 4 ans. J'ai rencontré Damien, je pense peut-être quelques jours ou quelques semaines après ton ouverture. T'es juste passé sur Marseille parce que je faisais des allers-retours. Je savais que j'avais déménagé sur Marseille les mois qui allaient venir, mais je suis passé, je fais un petit coucou. Ah salut, je suis en podcast, ah, c'est cool. J'avais vu ta newsletter qui était sur Instagram, qui menait vers un site internet en disant là on va ouvrir un laboratoire sur Marseille, argentique. Enfin, on va l'ouvrir, pardon, un laboratoire argentique sur Marseille. Sinon, dans l'autre sens, ça ne fonctionne pas. Et comme j'ai repris l'argentique il y a 2 ans, j'avais envie de voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Tout ça pour dire que cette question-là, c'est pas pour dénigrer la situation à Marseille ou sur quoi que ce soit, c'est que, comprenez-moi bien, je ne connais pas l'historique de la cité phocéenne sur ça, mon nouveau chez moi. On serait à Paris, je pourrais dire oui, mais bon, il y avait reportage image, il y avait Nation Photo, il y a Processus, il y a tout un tas de trucs. Là, sur Marseille, pour l'instant, moi, je n'ai en tout cas de labos qui ne font que de l'argentique, qui font vraiment du développement. Je ne connais que Damien, son équipe et son équipe au lab. Donc du coup, ma question est, quand tu as commencé la photo argentique en 2016, est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu sais s'il y avait encore des labos argentiques sur Marseille? Et je parle de vraiment labos argentiques, hein, je parle pas du Bouboui qui... enfin, du Bouboui. C'est dit avec beaucoup de respect. Il n'y a pas de troll. Je parle pas de la boutique où tu viens poser tes péloches, qui les envoie à perpète et qui te dit, bon, bah, reviens dans 3 semaines, je les aurai récupérés. Je parle pas de personnes qui font du sous-traitement. Enfin, qui sous-traitent, pardon, excusez-moi. Je parle de personnes qui, vraiment, effectivement, développent sur place. Donc, en 2016, quel était peut-être... Enfin, est-ce que tu as une idée de ce qu'était l'état des labos argentiques sur Marseille actuellement par rapport au lab? Donc là, on arrive au moment dans l'histoire où effectivement tu lances au lab en tant que labo, et quand tu as lancé au lab en tant que labo, justement, quelle était la situation? Ouais, comment ça se passait sur Marseille à ce niveau-là?
En fait, il faut savoir qu'à Marseille, c'est une super ville, mais il y a très peu de choix en termes de labo. La référence à Marseille, que tout le monde connaît, c'est Photo République, qui est un labo, comment dire, de quartier, on dirait. C'est une petite boutique avec des André à son frère. En fait, c'est deux frères, les frères Chan, qui ont un labo. Voilà, c'est les piliers de la photo argentique à Marseille, en tout cas en termes de labo. Il y a d'autres labos comme Camara, et puis en vrai, après, très peu de labos. En fait, le choix, très peu de choix. Donc, moi, j'étais client en fait chez Photo République, parce que c'était là-bas que tout le monde allait. Une fois qu'on tapait sur Google ou je ne sais quoi, on ne tombait que sur eux, quoi. Et en fait, ouais, actuellement, rien n'a changé à part le fait qu'il y ait Olab qui est ouvert.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, sur Marseille, on est passé de labo historique et... alors Camara, j'ai rien contre la marque Camara, c'est juste que pour les gens qui connaissent peut-être pas Camara ou des marques comme Fox, ce sont des magasins de photographie.
C'est vrai qu'il y avait Fox aussi.
Écoutez au pire l'épisode 33 avec Baptiste de MGK Photographie, Cook, Clément Bugaswood et Marion Carré. À un moment, on discute vraiment des laboratoires argentiques On fait la différence entre eux, et on parle même pas de la FNAC ou autre, des boutiques qui vendent du matériel photo, qui prennent vos pellicules et qui les font sous-traiter. Et il y a aucun souci avec ça. Et vraiment des lieux qui sont des laboratoires argentiques, qui sont vraiment dédiés uniquement à ça. Mais ce sont des typologies de lieux et de commerces qui malheureusement ne fleurissent pas autant que les magasins de CBD. Mais ça, c'est donc fin 2021, tu lances le lab.
Au lab, tu parles de la boutique.
Je parle de la boutique, oui, excuse-moi, c'était pas clair. Oui, non, au lab était... Il a rien écouté depuis 20 minutes, ce con. Non, au lab était... Au lab existait déjà avant.
Au lab avait passé par plusieurs phases, voilà. 2017, au lab, c'était mon atelier. 2018, c'est devenu Nassau. Jusqu'à fin 2021, où on quitte le couvent. Pourquoi? Parce que il y a eu le Covid, et il y a eu aussi... le fait que Juxtapose n'était pas sûr de rester au couvent. Il y avait une incertitude sur le fait qu'on puisse garder notre atelier, et les photographes qui composaient l'association d'Olab ont commencé à partir en fait du couvent, parce que pourquoi rester alors que ça va se finir?
Enfin, j'imagine que dans des assos comme ça, tu as des questions de bail aussi, et ouais, c'est des choses qui sont reconductibles, et t'es pas obligé de...
Tout le monde s'est dit, bon, ben, c'est la fin des ateliers du Juxta. Tout le monde est parti chez Yes We Camp. Il y avait d'autres ateliers. Enfin, du coup, en fait, on s'est retrouvé. Enfin, moi, je me suis retrouvé en fait devant un choix à faire. Arrêter au lab. Enfin, retrouver un autre atelier. Me lancer. Là, il était temps de prendre un autre tournant, en fait. En fait, j'avais investi déjà de l'argent dans des machines, donc dans la Jobo pour développer, un scanner Imagus pour pouvoir scanner les pellicules. Et en fait, ben, j'ai eu la chance d'avoir de l'espace chez moi pour pouvoir accueillir ce petit labo. Et en fait, j'ai monté mon labo chez moi, dans mon garage, et je me suis dit, ben là, en fait, je mets un point de collecte de films dans la boutique de mon collègue qui est un boutique de graffiti, bizarrement.
Étonnant. Comment ?
Et en fait, du coup, pendant 6 mois, j'ai fait ça comme ça, en mode dans mon garage, et point de collecte tous les vendredis, je récupérais les pellicules.
Et les personnes récupéraient leur film,
leur négatif chez mon collègue,
dans la
boutique. Quoi. Donc ouais. On faisait une rotation. Quoi. Le vendredi, je récupérais tous les films, je développais lundi, mardi, mercredi, puis jeudi, je ramenais les négas.
Tu faisais que du développement ou tu faisais déjà du scan
Voilà, j'avais développement et scan, quoi. Je faisais ça, donc c'est à partir de ce moment-là où je suis parti, enfin, où on est parti du couvent, où en fait je me suis posé vraiment les questions sur le futur d'Olab, et voilà, sur les 6 premiers mois de 2022, j'ai pris ma décision, je cherche une boutique et je monte le labo, en mode business, quoi. Voilà. Donc un vrai labo argentique, enfin vrai, un espace dédié 100% à la photo argentique à Marseille.
On vient de passer les... on reviendra sur ça un petit peu après, hein, mais on vient de passer les 1 an de Olab, bon anniversaire, avec quelques jours de retard, quelques semaines de retard. Actuellement, l'équipe Olab, c'est pas toi tout seul, c'est combien de personnes? Tu as pu emmener combien de personnes avec toi dans ton aventure là, en 1 an d'ouverture?
En fait, Olab, j'ai jamais été tout seul. Voilà, Olab, ça a toujours un projet avec des amis qui m'ont entouré, des gens passionnés, depuis le début. Voilà. Et j'ai jamais été tout seul. J'ai été à l'initiative du projet, mais il y a toujours eu des gens qui m'ont aidé, et je les en remercie toujours avec le grand cœur. Merci. Et en fait, actuellement, on est 6. 1er septembre 2022, j'ai ma première employée, en fait, employée, c'est alternante, Fatima, qui a rejoint le projet, le labo Olab. Et voilà, et puis au fil du temps, en fait, avec la demande qui n'a fait que croître, maintenant on est 6.
Ok, et donc 6 personnes qui vont couvrir les différents postes que vont gérer Olab, mais les différentes choses qu'offre Olab, mais on va revenir sur ça juste dans un instant. On revient un petit peu sur ta pratique perso. Ton travail photographique se base beaucoup sur du reportage, en opposition avec une photo plus scénarisée, plus écrite, au sens photographie de studio. Hein. Pareil, là, j'essaie pas de créer une variation en disant ça c'est bien ou ça c'est pas bien. C'est un constat sur la pratique d'une personne. En tout cas, je trouve que ton travail se porte plus sur du reportage. Comme je disais tout à l'heure, on voit de l'urbex, on voit une volonté de cartographier et la ville et les humains qui habitent cette ville, ce qui est quelque chose qui est très propre aussi, du coup, j'ai l'impression, au graffiti. Est-ce que cette trame-là, elle s'est écrite déjà avec ton travail photographique, et je vais préciser ton travail photographique argentique, au moment autour de 2016 où tu as step up encore en photographie, tu t'es dit, bon, ben voilà, maintenant que la technique, triangle d'exposition, le développement, Lightroom, ok, ça je comprends, il n'y a aucun souci, mais là j'ai envie d'aller plus loin et t'apporter un autre regard, ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose qui vient peut-être d'ailleurs, qui vient du graffiti, qui, pour toi, cette manière de travailler, cet œil d'observateur, il vient d'où et à travers quoi?
En fait, je fais de la photo à l'instinct. Je n'écris rien à l'avance, donc c'est pour ça que je ne me suis pas orienté vers la photographie de studio, bien que j'en ai fait pour des projets perso, pour des portraits. Mais en fait, tout ça vient du fait que j'ai découvert la photographie à travers les souvenirs de mon enfance, dans les livres photos, quoi. Un peu comme tout le monde, je pense. J'ai eu très peu de souvenirs de mon enfance, et c'est à travers ces souvenirs-là que j'ai reconstruit mon histoire. La photographie me permet de faire pareil, enfin de continuer la mémoire de mon histoire, en fait, à travers les gens que je rencontre, et surtout, en fait, je fais ça à travers Marseille parce que c'est mon premier voyage. La première fois que j'ai voyagé, j'avais 30 ans, mais avant ça, mon voyage, c'était Marseille, et ça reste Marseille, en fait. Je me baladais dans les rues, mes errances photographiques, un peu comme on peut faire avec le graffiti, se balader, faire des tags à droite à gauche. Et là, c'était un peu pareil avec la photo. Je me balade dans les rues, et puis d'une rue à l'autre, l'ambiance change, le quartier change, les écritures sur les murs, les gens qui habitent cette ville, c'est infini. Et du coup, en fait, c'est ça qui m'anime dans la photo, c'est ce qui m'entoure. J'adore ça. Et voilà, c'est pour ça que je fais des photos beaucoup de photos de Marseille et beaucoup de photos de portraits de gens qui font partie de ma vie.
Il est forcément toujours plus simple de trouver que l'herbe est plus verte dans le pré d'à côté. À titre personnel, là, vraiment, ça n'engage que moi. Je pense que j'ai eu beaucoup de mal ces derniers mois, cette dernière année, à arriver à produire de la photographie sur Paris. Parce que tout simplement, j'étais fatigué de Paris, pour plein de raisons. J'étais fatigué de Paris et des Parisiens, mais alors, je sais pas si je peux être objectif, parce que j'arrive dans une ville que je découvre et qui s'étale devant moi comme un nouveau terrain de jeu avec plein de trucs à faire. Mais effectivement, il y a une sorte d'énergie, il y a une vibration, il y a un truc différent. Comme je dis, pour moi, c'est un nouveau terrain de jeu. Je pense que actuellement, je connais peut-être 5% de Marseille et il va me falloir du temps avant de voir l'ensemble et de voir tout ce qui est possible de faire. Mais entre Marseille, les alentours, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à faire, photographiquement parlant aussi. Bon, ça amène cette question là maintenant. Ça m'étonne pas, si tu veux, le succès, entre guillemets, qu'on peut constater par rapport à Olab, sur votre communication et sur les gens qui viennent. Quand tu as fêté l'anniversaire de Olab il y a 2 semaines ou 3 semaines, c'était noir de monde. Faut bien imaginer que le shop de Olab, c'est un tout petit shop par rapport à des labos argentiques que vous pouvez connaître. Si vous avez déjà eu le plaisir de passer à Bruxelles chez Maury ou dans d'autres labos, c'est une petite boutique. Quel bilan après une année d'ouverture tu peux tirer sur le passage de Olab, de la structure associative à la structure, j'allais dire professionnelle? C'était déjà un niveau professionnel par rapport au matériel que tu as acheté quand tu étais associatif, mais j'ai envie de dire entreprise, entrepreneuriale. Voilà, ça me semble être le meilleur terme. Après une année au lab, ça donne quoi? Ça se passe comment?
C'est juste dingue. C'est ça qui est... Des fois, je regarde... Je suis dans la boutique, et des fois, je me dis... Waouh, ça marche. C'est vraiment, pour moi, ça a été un step d'ouvrir une boutique. Parce que ça fait longtemps, en fait, que je tournais autour du pot, parce que pour moi, il manquait vraiment un lieu dans lequel les passionnés de photo argentique puissent se retrouver, puissent venir échanger. Je l'ai connu, encore une fois, à travers le graffiti. À l'époque, il y avait une boutique qui s'appelait Comasson de Cartel, qui était à la rue Berlioz, et c'est là où j'allais acheter mes sprays. Et il y avait la même énergie, c'est-à-dire qu'on pouvait rencontrer des graffeurs qu'on ne connaissait pas, et voilà, et du coup, discuter avec eux, retrouver ses collègues, passer toute l'après-midi devant le shop et à discuter, quoi, juste entre passionnés. Et à Marseille, il n'y avait pas ça. Et moi, je me suis dit, ouais, je rêve toujours d'avoir un lieu comme ça, à travers la photo. Et en fait, voilà, j'ai franchi le pas, un an s'est passé, et je me dis, waouh, c'est fou ce que ça passe vite. C'est fou ce que ça a pu m'apporter en termes de, encore une fois, de rencontres, en termes d'expérience, parce que... Voilà, j'ai monté un business, mais j'y connais rien. J'ai ouvert la société, et puis j'ai appris sur le tas, encore une fois, quoi. Même en termes d'équipe, d'organisation, de gestion de flux, et puis voilà, comme je t'ai dit, dès le premier jour, en fait, dès le premier mois, ça n'a fait que augmenter le volume. Et du coup, ben, un an de pur bonheur, de fatigue... intense, mais c'est que du kiff, quoi.
On salue les amis de Maury Film Lab, que j'ai pu interviewer en janvier dernier, si j'ai pas de bêtises. C'est eux les premiers qui m'ont parlé de toi, comme je disais tout à l'heure, en me disant eh, bien sûr, il y a... oui, bah oui, Damien, oui, comme si je le connaissais déjà. Oui, bah oui, bah Damien, il est venu nous voir, on a discuté, tout ça. Je le sais parce qu'on en parlait tout à l'heure. Tu es allé voir les amis de Maury Film pour voir un petit peu comment ça se passait. Il y a un côté... Bon, les deux structures sont pas comparables, et je te souhaite tout le mal que je te souhaite, c'est la même réussite que les amis de Maury. quand on vient voir au lab, on se rend bien compte qu'il y a cette volonté et cette envie, et ça se retrouve, ça s'est retrouvé d'ailleurs dans la célébration de la première année. Tu as fait une exposition avec des clichés qui étaient exclusivement des clichés qui étaient clients qui sont passés par Olab. Je crois reprendre exactement le même épisode. Je suis désolé si vous avez écouté l'épisode Morifim Lab, mais c'est vraiment le même exemple et pour moi c'est le meilleur. C'est un petit peu le ce qu'on retrouvait avec le mantra de Fubu. Et on revient à la culture hip-hop, for us, by us, et tu renvoies ça aussi, du coup, à ta communauté. Une année, alors c'est peut-être un petit peu tôt pour le dire, peut-être que tu vas me dire, bah non, mec, repasse dans 2 ans, on en parle si tu veux, mais en une année, t'as l'impression que... Enfin, quelle communauté tu as pu créer avec tes clients? Est-ce qu'il y avait une communauté qui n'attendait que ça? Est-ce que tu as vu la communauté grandir? Peut-être pour les personnes qui écouteront cet épisode, je ne sais pas quand, dans le temps. Là, on est en novembre 2023. On est dans la continuité de la hype qui continue à monter sur la photographie. On vient de voir que Kodak, l'homographie aussi, commence un petit peu à changer de... J'allais dire à changer, non, mais à revenir sur des prix un petit peu plus raisonnables. Enfin, il y a des annonces qui se font. La photographie, entre guillemets, argentique, et j'entends, et toujours, c'est pas dans l'idée d'opposer des numériques à l'argentique, absolument pas. La photographie argentique est de nouveau en train de se... On a l'impression qu'elle est en train de finir de digérer ce premier gros repas de hype qu'elle vient de faire, et qu'elle va commencer à se resservir avec des petits amuse-bouches, des petites choses, qu'elle se remet un petit peu en appétit, et qu'elle vient de... Très mauvaise métaphore sur la bouffe, je suis vraiment désolé. Qu'elle vient de finir son énorme raclette de hype qu'elle avait commandé pour 5 personnes, et en fait, elle était seule à table. Et donc, du coup, en termes de... Ouais, en termes de communauté, moi, quand je suis arrivé, quand je suis venu l'autre jour à l'anniversaire, c'était... y avait un DJ set, y avait beaucoup de monde, les gens venaient voir aussi les photos et ce qu'ils avaient fait, mais il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Et comme tu l'as dit, comme on en parlait avec Depardon tout à l'heure, la photographie, bien sûr, en soi, la prise de vue, c'est très souvent un acte solitaire. Le développement, des heures devant Lightroom, des heures devant Capture One. Si vous faites du tirage et du développement en Darkroom, devinez quoi, c'est exactement la même chose. T'es très longtemps seul avec ton film et faire tes bancs tests, voir quel papier, comment tu as travaillé, ta chimie, la bonne température, oui, non, faire tes tests, jusqu'à faire ton tirage final, le rincer, le mettre à sécher, tout ça. Donc c'est des longues heures de présence seul face avec ton image. Et pour autant, j'irai pas là rallumer le téléphone pour voir le nombre d'abonnés que tu as sur la page Instagram, mais il y a beaucoup de monde. J'ai l'impression que Olab draft énormément de monde, peut-être par rapport à Camara, peut-être par rapport au studio à République dont tu parlais tout à l'heure. Est-ce que tu es capable d'expliquer ça? Est-ce que c'est... Tu penses que tu es arrivé la bonne personne, le bon service, au bon moment? Ou est-ce qu'il y avait une attente? Je sais pas. Vraiment, j'insiste sur ça, moi. Je ne connais pas Marseille. J'arrive, Damien me fait l'amabilité, la gentillesse de me recevoir pour discuter de Olab, et ces questions sont vraiment innocentes sur la structure et la structuration de la photographie argentique et la photographie générale sur Marseille.
Ben, comme je te disais, en fait, il y a très peu de labos, donc en fait, ça n'a pas été très compliqué de pouvoir réunir des passionnés autour d'un lieu qui est dédié à la photographie argentique. C'est vrai que moi, ça fait depuis 2018, en fait, que je construis le projet Olab. Et voilà, j'ai monté une page Instagram, voilà, pour pouvoir partager, repartager des photos, communiquer à travers la photo argentique. Et puis, en fait, les gens me connaissaient à travers ce média. Et en fait, le fait qu'il y ait eu la boutique, ça m'a montré en fait qu'il y avait un vide à Marseille sur un lieu où les gens pouvaient se réunir autour de la photo. Non pas qu'il n'y en ait pas, parce qu'il y a aussi le centre photographique de Marseille, il y a Zoem, la librairie, qui n'est pas très loin, mais c'est des institutions qui sont plus orientées photographie contemporaine et, galerie. En fait, ici, c'est un lieu un peu plus underground, en fait, on va dire, qui se prétend pas être élitiste ou comme tu disais, on a fait une expo avec une trentaine de photographes amateur ou professionnel, en fait, il n'y avait pas de code ou de règles. C'était juste pour le plaisir de la photographie et pour l'amour de l'image, quoi. Et puis, voilà, c'est... Je ne saurais pas comment l'expliquer, mais voilà, il y a peu de concurrence. Et Olab est venu combler ce manque.
Alors là, on va revenir plus sur un parti, j'allais dire, offre, labo, des choses comme ça. En termes de prestations, Olab, vous proposez quoi ?
En termes de prestations, en fait, on propose du développement de films, de la numérisation. On vient de lancer aussi le service de tirage, des workshops autour de la photographie noir et blanc, donc développement de films noir et blanc et tirage noir et blanc. Et voilà, quelques expos, en gros, quoi, sur la première année, on en est là.
En termes de développement, juste, on va rentrer dans la technique, juste deux minutes, de manière à ce que les personnes puissent, comme on a parlé du développement couleur et du développement noir et blanc, est-ce qu'il y a des développements spécifiques que vous faites par rapport à d'autres? Vous développez de la couleur, vous développez du noir et blanc, est-ce que vous faites... Comment ils s'appellent déjà ces films avec leur M-Jet?
ECN2?
Oui.
Ouais, non, on fait pas ça. On fait pas ça parce que, en fait, il est important pour nous de maîtriser un maximum ce qu'on fait, noir et blanc, couleur. Pour l'instant, on en est là. Non pas qu'on veuille pas se développer vers ça, mais ça fait pas si longtemps que...
Non, ça fait un an.
Il y a du ECN2 qui envahit les appareils des amateurs de la photo. Voilà, ça reste de la chimie, ça reste un savoir-faire. Avant de pouvoir proposer ce genre de service, il faudrait déjà qu'on ait des machines adaptées. Et donc, juste pour l'instant, c'est développement couleur et développement noir et blanc. Et voilà, c'est déjà pas mal parce que c'est déjà un gros taf, quoi.
Ok, même question un petit peu que j'avais pu poser aux amis de Maury, qu'on salue. Un an, très bien. La suite, le futur, ce que tu as envie de faire à court ou à long terme, hein, pour Olab, t'as envie d'aller vers quoi? Il y a des choses qui te...
J'aimerais continuer à développer le projet pour pouvoir réunir encore plus de passionnés de photographie argentique. C'est vrai que, comme tu dis, on a une petite boutique. J'aimerais pouvoir, dans un an, pouvoir peut-être ou changer de local ou pouvoir avoir le local d'à côté et de faire un espace technique et un espace de vente pour pouvoir aller encore plus loin, enfin, explorer justement le tirage RA4. On avait une machine, on pouvait faire du tirage RA4, mais elle nous a lâché malheureusement. Du coup, pourquoi pas, si les finances le permettent, acheter une Colenta et pouvoir proposer aux photographes qui font du film couleur, pouvoir faire du tirage dans la darkroom. Parce que c'est vrai qu'à Paris, il y a Emulsion, il y a d'autres labos qui sont en train de se monter avec du tirage RA4. Et c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir proposer ce service-là aussi. J'aimerais bien, comme je te disais, faire des photowalks, pourquoi pas, pour réunir encore plus dans un cadre convivial et à la cool des balades photographiques pour que les gens puissent se connecter entre eux, quoi. Parce que c'est vrai qu'on est tous connectés avec les réseaux, mais des fois, ça manque de liens physiques.
Retourner vers la communauté, quoi.
Ouais, c'est quelque chose qui est important pour moi, de qu'on soit ensemble, qu'on puisse partager, qu'on puisse apporter des tips, des expériences, même des opportunités de taf, quoi, parce que ça se fait souvent comme ça, le réseau, quoi.
Bien sûr.
Donc voilà, Olab, je pense qu'il y a encore plein de choses à faire, quoi.
Maury Filmlab, pardon, pour que le nom soit complet, qui est à Bruxelles, reçoit aussi beaucoup de films par correspondance.
Ouais.
On a eu cette discussion de comment ils voyaient les labos frontaliers, enfin les labos français, parce que justement, sur Paris, il y avait des soucis avec des labos, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont tournées vers d'autres laboratoires hors Hexagone, Carmen Cita, Maury Filmlab, d'autres. Actuellement, la clientèle de Olab, est-ce que c'est une clientèle qui est uniquement phocéenne? Est-ce que c'est une clientèle qui est plus large sur le sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur? Est-ce que tu as des personnes de l'étranger qui t'envoient des films? Bien sûr, et c'est évident, quand on vient, quand on voit, quand on discute avec toi, quand on voit les échanges de OLAP sur les réseaux, il y a ce côté communautaire. Mais du coup, la communauté, elle va jusqu'où?
Alors, du coup, elle ne s'arrête pas à Marseille. La communauté, ça c'est cool, parce qu'on reçoit des pellicules de personnes qui habitent dans d'autres villes en France. Et ça, c'est super cool. On a un service de vente par correspondance, quoi. Enfin, de traitement de films par correspondance. Il suffit que d'aller sur le site, de remplir le formulaire en disant voilà, je veux du développement noir et blanc, j'ai deux films noir et blanc avec un scan HD, TIFF, pas TIFF, traitement poussé, pas poussé, et puis d'envoyer à notre adresse. Et puis, une fois que nous on reçoit les films, on renvoie un lien de paiement. C'est déjà le cas. Il y a déjà des gens qui nous envoient des petites villes en France qui nous font confiance.
Mais le plus gros reste actuellement la communauté marseillaise.
Le plus gros, ça reste du direct Marseille, quoi.
Et c'est dans ta manière de peut-être de vouloir voir évoluer le projet OLAB / entreprise. On comprend, enfin du moins je comprends qu'effectivement t'aimerais à un moment pouvoir peut-être revenir à ce qui était la fin de OLAB Association en termes de structure, hein, avoir plus de place, pouvoir organiser des stages peut-être de tirage, des stages de développement, des choses peut-être toujours forcément en physique avec plus de monde. Est-ce que cette ouverture de la communauté à autre chose que la communauté phocéenne, c'est quelque chose que vous essayez de favoriser, ou au contraire, vous voulez absolument non, puisque les gens vous envoient des films, mais au contraire, est-ce que vous essayez plutôt de rester sur du local, parce que c'est plus facile d'avoir les personnes en face de soi?
Oui, c'est sûr que c'est plus simple d'avoir les personnes en face de soi, de travailler en direct, quoi. C'est vrai qu'après, de développer la communauté sur national ou l'international, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de présence sur les réseaux, voilà, quoi. Raph fait ça très bien. Mais c'est un taf à part entière, quoi.
C'est voilà.
Donc, j'essaye déjà d'avoir un jour de repos pour moi.
Ouais, bien sûr.
Voilà. Je vais faire les choses petit à petit. Voilà. Moi, ce qui est important, c'est surtout le lien physique. Voilà. De développer le local. Sur la région sud, peut-être aussi. Et voilà, quoi.
On parlait des autres labos, et on va dépasser peut-être le cadre phocéen. On a fait un épisode sur ça, on entend parfois parler peut-être de petits soucis qui peuvent arriver entre des laboratoires, enfin des prestataires de services et des clients. On en discutait tout à l'heure aussi, nous, sur la perte de véhicules, des choses comme ça. Avec ton passage par l'associatif, et maintenant la version entrepreneuriale de OLAB, je vais essayer de formuler la question différemment. Pour toi, ouais, on va la faire comme ça. Pour toi, c'est quoi un bon labo par rapport à ce que propose OLAB maintenant, après une année? Qu'est-ce que tu voudrais peut-être faire évoluer ou changer ou arrêter pour peut-être te rapprocher, si tu estimes que tu en es loin, de ce modèle du labo vertueux? Parce que bon labo, ça veut rien dire, bon labo. C'est comme le bon et le mauvais chasseur, on va pas refaire la blague. Mais le labo vertueux, et qu'est-ce qu'il faudrait peut-être changer ou améliorer ou mettre en place, toi, du côté de là, pour aller vers ça?
Pour être un bon labo, je pense qu'il faut être déjà vraiment à l'écoute de ses clients, être vraiment honnête. Ça arrive de faire des conneries, malheureusement. Voilà, ne pas des robots, et même les robots, des fois, ça tombe en panne. On utilise des machines, et puis des fois, il peut y avoir un problème, et puis malheureusement, vu que c'est des processus de chimie, et, du coup, il peut y avoir des erreurs. Le pire qui puisse arriver, c'est de renier cette erreur et de prendre le client pour ce qu'il n'est pas. C'est-à-dire de dire, ah ben non, ton film, là, il y avait un problème, il est vierge parce qu'il a été mal chargé. Ou déjà, de se dédouaner de sa responsabilité, déjà, c'est la pire des choses pour moi. Donc, c'est déjà arrivé qu'il y ait des erreurs. Et avec l'équipe, on les a assumées, on a expliqué aux clients. Et puis, les clients l'ont reçu comme l'ont reçu, mais en tout cas, nous ont dit, en tout cas, ça fait plaisir que vous soyez honnête, et déjà, c'est un grand pas, déjà, parce que, comme on disait, perdre un film d'un client, ça c'est horrible, ça ça nous est jamais arrivé, j'espère que ça nous arrivera jamais. Ça, ça demande une grande organisation. Voilà, donc ça, c'est hyper important pour un labo qui se développe, d'avoir une organisation, de pas lésiner sur ce côté-là, quoi, sur le workflow, sur comment est-ce qu'on gère les commandes, comment est-ce qu'elles sont répertoriées, comment les films sont classés. Enfin, voilà, il y a tout cet univers de gestion de données, en fait. C'est vraiment ça, quoi. Qu'est-ce qu'on fait du film une fois que la personne l'a déposé au magasin, parmi un nombre incessant de commandes, quoi. Donc voilà, c'est être hyper rigoureux, voilà, comme je te disais, à l'écoute du client, quoi. C'est hyper important. Et surtout, de ne pas vouloir faire du volume à fond sans avoir les bons outils, quoi. Parce que ça, c'est là où on fait des erreurs.
J'allais dire, tu voudrais améliorer quoi ? Non, c'est pas une question d'améliorer, c'est pour atteindre ce... Alors déjà, est-ce que tu penses que vous êtes loin avec l'équipe de ce modèle de labo vertueux ? Même au-delà d'être loin ou pas, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais toi proposer par la suite dans les projets ? Est-ce qu'il y a des choses vers lesquelles tu voudrais aller ? Parce que c'est peut-être des choses qui t'ont manqué effectivement autour de 2016, enfin autour de 2018, quand t'as commencé en fait le OLAB en version association, et qu'il y a des choses que tu voudrais peut-être ramener en me disant, bah, moi quand j'ai commencé, quand j'ai voulu apprendre, il me manquait ça. Maintenant que je suis de l'autre côté de la barrière, entre guillemets, il faut aussi t'appeler comme ça, parce que c'est ta casquette aussi en tant que chef d'entreprise, sur une structure, mais qui touche quand même un truc qui me passionne. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai envie de mettre en place pour que ce soit différemment, pour que les personnes n'aient pas forcément ce par quoi je suis passé, ou est mieux?
Je vois pas trop ce que... Enfin, j'ai un peu du mal à savoir. Vu que je suis en perpétuelle remise en question sur le labo, sur comment améliorer les choses, c'est une question que je me pose tous les jours. Comment est-ce que je peux améliorer les choses ? Comment est-ce que je peux rendre le service de traitement de films et de numérisation le plus agréable possible, le plus orienté qualité ? Ça, c'est le point sur lequel je ne ferai pas d'impasse, c'est la qualité. Mon modèle, pendant un moment, c'était Carmen Sita. C'est-à-dire que quand j'ai commencé l'argentique, j'ai cherché de bons labos, je suis vite tombé sur leur nom. Et j'ai regardé ce qu'ils faisaient, et je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que ça a l'air très quali, quoi. Et quand j'ai regardé leur équipe, voilà, ils ont des outils de fou, enfin, ça marche super bien pour eux. Quand je suis allé voir Morifilm, là, pareil, j'ai vu les outils qu'ils ont mis en place. Ils m'ont donné des tips, et puis je les ai mis en place aussi pour OLAB, quoi. Et voilà, donc c'est une recherche constante d'outils qui peuvent aider à réduire un maximum l'erreur.
Qu'est-ce que le Damien de maintenant pourrait dire au Damien d'il y a un peu plus d'un an, au moment où tu t'es dit... Quand l'allumette a craqué, quand l'étincelle s'est faite, tu t'es dit « Ok, donc là, on part sur une entreprise. Là, maintenant, on change de braquet. » Si tu pouvais avoir ce Damien du passé en face de toi, qu'est-ce que le Damien du présent lui dirait ? Est-ce que tu aurais des conseils à lui donner ? Est-ce que tu le mettrais en garde sur des trucs ?
Moi, je lui dirais « Ça va bien se passer. Mieux que ce que tu crois. Cherche un local plus grand. n'aie pas peur de rêver grand. » Ça va être dur, mais hyper positif et hyper enrichissant. Et ouais, c'est que du love et que de la bonne vibe, quoi.
Et du coup, parce que cette question a forcément une deuxième partie, tu l'imagines bien, le Damien du présent, qu'est-ce qu'il aimerait entendre du Damien de peut-être, je sais pas, dans 2 ans ? Quelle question t'aurais envie de lui poser ?
Quelle question j'aimerais bien lui poser à Damien dans le futur ? Alors là, c'est pas évident, hein. Est-ce que d'autres fabricants de pellicules vont nous fournir des films de ouf ? Non. Est-ce qu'ils vont refaire de la Pro 400H? Non, c'est. Est-ce que c'est vrai qu'on est dans une période où il y a eu tellement de de questionnements sur la photo argentique. Est-ce que c'est que la hype, enfin, est-ce que c'est la mode, est-ce que ça va s'arrêter, est-ce que ça va continuer, est-ce que par rapport à la flambée des prix, ça va pas s'écrouler. J'aimerais bien savoir dans 2 ans si ça continue dans ce sens-là. Ça serait bien. Ça serait bien pour la photo, quoi, argentique. Parce que c'est vrai que pour les petits budgets et tout, c'est vraiment pas évident, quoi, la photo argentique. J'aimerais bien que dans 2 ans, ce soit quelque chose qui soit plus accessible. Et j'aimerais bien que dans 2 ans, le Damien me dise, bah, tu vois, on a un plus grand shop et on peut faire encore plus de choses dédiées à la photo argentique avec un peu plus d'espace, quoi.
Une question sur le labo, mais je vais la placer après une question te concernant toi, au bout d'un an maintenant d'aventure entrepreneuriale autour de Olab, ta pratique photo qui est si importante pour toi, qui t'a permis, bah, qui t'a amené à construire ce projet, elle en est où ? T'as le temps de pratiquer ? T'as pas le temps de pratiquer ? Ça se passe comment ?
Ça ne se passe plus. C'est vrai qu'il y a... C'est le néant. Malheureusement, en fait, c'est... En fait, cette aventure, ce basculement dans la photo argentique en 2016, où j'ai bouffé tous les jours du film. Franchement, je ne sais même plus comment je faisais de film par mois, mais c'était dingo, quoi. C'était le kiff total. Mais maintenant, en fait, franchement, si je fais 10 films par an... C'est chaud, quoi. Je pars en vacances, ouais. Quand je pars en vacances, quand j'en ai, voilà, je fais un film ou deux, mais... Donc, c'est assez frustrant sur ce côté-là. J'avoue que ma créativité, elle en a pris un coup, parce que c'est quelque chose qu'on nourrit quand même au quotidien, de pouvoir pratiquer, c'est un cercle un peu vertueux, quoi. Mais d'un autre côté, j'ai tellement appris de choses du côté entrepreneurial. Et comme on en parlait tout à l'heure, en fait, il faut remplir le frigo. Et du coup, en fait, à travers la photo, quand j'étais photographe freelance, c'était quand même... Il y a un moment où je surfais sur la vague, et il y a un moment où il y a eu le Covid, et la vague, elle était plus là. Et en fait, j'ai dû retrouver un job alimentaire, blablabla, et en fait, j'ai dit, non, mais il faut absolument que je puisse vivre de la photographie. Et aujourd'hui, j'arrive à vivre de la photographie, mais pas à travers la mienne, mais à travers celle des autres. Et ça je trouve ça cool, parce que ça rentre aussi dans le côté de ce qui m'anime, de la mémoire collective. En fait, je suis un peu comme la fabrique de souvenirs ici. C'est-à-dire que ici, je révèle les souvenirs du monde, quoi. C'est-à-dire que les photographes nous confient leur pellicule, que ce soit un amateur, que ce soit un professionnel. Ça reste des fragments du temps, quoi. Et du coup, ça prend quand même du sens pour moi. Même si ma photographie perso est très, très limitée, quoi.
Effectivement, tu produis moins, mais tu assures aux personnes qui viennent te voir, tu assures à tes... faut appeler un chat un chat aussi, hein. Tu assures à tes clients une prestation de qualité. C'est important aussi, hein, pour les personnes qui suivent le podcast, pour les personnes qui vont retourner écouter certains épisodes. Sur celui du print, j'explique à quel point il est, en tout cas à mon sens, important de trouver un imprimeur qui soit... une relation de confiance. C'est rassurant, pour du print comme pour du développement, d'avoir cette relation de confiance. Et je pense que c'est ce qui fait aussi que Olam marche bien. Les gens qui venaient, ça se voyait dans les petites lumières, dans les yeux des gens, sur la fierté qui pouvait se dégager d'eux, le plaisir qu'ils pouvaient avoir à voir les photos qui sont toujours affichées là, dans l'entrée du shop, de dire « Ouais, t'as vu, cette photo, c'est moi qui l'ai faite. » Et elle a été développée ici, elle a été tirée ici, et ça donne ce résultat-là. C'est vachement important. Alors, c'est très gratifiant pour toi, j'imagine. Comme quand on donne des cours, de voir les personnes qui reviennent après et qui disent « Ah, t'as lu, j'ai appliqué ça sur le flou. J'arrive à faire ce que je voulais, j'ai même pu aller un petit peu plus loin. » J'imagine que c'est gratifiant aussi pour toi de voir des personnes qui sont des Damiens du passé, au sens, pour X ou X raisons, des personnes qui tombent dans la photographie maintenant, qui vont peut-être pas forcément avoir le même parcours que toi, mais à qui tu fournis, entre guillemets, le service, la prestation de traiter leurs films et les images, les fragments qu'ils te proposent tels qu'ils méritent d'être traités, en fait. Là, pour vous, dans le temps, c'est très distant parce que c'est l'épisode 35, il y a eu l'épisode sur le hip-hop avant, mais au moment où j'enregistre cet épisode, et je suis tout à fait transparent sur ça, l'épisode 33 sur les labos argentiques est en validation par les guests pour voir s'ils sont d'accord sur la manière dont je l'ai monté, le diffusé, tout ça. Et j'ai encore cette phrase de Baptiste MGK que j'avais dans les oreilles il y a quelques heures, qui disait « Non mais bien sûr, on parlait de la qualité d'amélioration, ce qu'on pouvait faire pour améliorer les labos. » Et lui disait « Mais bien sûr que quand je suis client, du moment où j'ai donné mon film, que je l'ai posé sur le comptoir, je vais attendre les résultats toutes les minutes de ma vie comme si c'était comme si ma veille en dépendait. Et même si le film, il a passé 3 mois sur une étagère, dans un frigo ou autre, rappelez-vous, conservez vos pellicules au frigo, fin du rappel. » C'est, j'imagine que c'est vachement gratifiant de pouvoir se dire à un moment, ok, moi je gagne ma vie via la photographie, et dans cette partie-là, parce que moi je suis dans la partie prise de vue, et de te dire, bah, je gagne ma vie via la photographie en permettant aux personnes d'avoir des photos telles qu'elles sont, telles qu'elles devraient être traitées tout le temps, même si, à contrario, effectivement, t'as un petit peu moins le temps de pratiquer.
C'est sûr, ouais, c'est vrai. Franchement, c'est justement, en fait, j'ai fait le constat de ce que tu dis quelques mois après avoir ouvert le shop, quoi, où j'ai vu ma pratique réduire de jour en jour, et je me suis posé la question de quel sens ça avait d'avoir un labo en fait argentique, quel sens ça avait pour moi. Et en fait j'en ai fait ce constat là, c'est que c'est vraiment cool de pouvoir donner tout mon amour, mon expérience, bien qu'elle soit en fait, je suis encore un ancien de la photo argentique, un peu loin de là. Et avec le chemin que j'ai fait, des expériences, de me dire, bah voilà, ce que j'aurais aimé avoir en tant que labo, en tant que client, c'est ça que je veux pour les clients qui viennent chez Olab, c'est-à-dire un service de qualité, être honnête, être transparent, être ouvert à l'écoute et de comprendre leurs besoins et d'investir dans des machines aussi puissent aussi répondre au service des professionnels qui sont assez un peu plus pointilleux, parce qu'ils ont des attentes en termes de colorimétrie, de profondeur, de fichiers et tout ça. Donc c'est pour ça qu'on a investi dans un nouveau scanner Noritsu HS1800, voilà, parce que voilà, il y a la qualité qui prime, quoi, et tout ça c'est gratifiant, quoi. Pour moi, je suis super content de venir au taf, je suis super content de venir au labo, de me dire, ouais, c'est être un geek des années 2000, parce qu'on bosse avec des scanners qui fonctionnent sous Windows 2000, XP, faire de la chimie, c'est hyper diversifié comme métier en plus.
En termes de délai, alors pareil, les questions reviennent, hein. Je vous rassure, en 35 épisodes, il y a forcément des questions qui reviennent, puisqu'on parle tout le temps de photographie. On sait que les délais dans les labos argentiques, c'est quelque chose de particulier. C'est pas quelque chose de particulier, mais c'est quelque chose qui revient, qui est bien sûr, naturellement, très important. Qu'on a donné un film, en combien de temps il va être développé, ce qu'on attend du film, combien de temps on va le recevoir. Par rapport à Olab, vous fonctionnez comment sur ça? Alors, j'ai bien compris que je respecte complètement le fait de dire oui, effectivement, nous, ce qui nous intéresse, c'est de mettre en avant la qualité. Comment vous fonctionnez sur ça? Et actuellement, le délai pour un dev et un dev plus scan, c'est quoi?
En fait, le délai moyen, on va dire qu'il est à 4-5 jours ouvrés. Ça peut être un peu moins, comme ça peut être un peu plus. En fait, ça dépend du volume du film qu'on a. Ce qu'on peut pas faire, c'est aller plus vite. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire qu'il faudrait investir dans de nouveaux scanners et embaucher de nouvelles personnes. Voilà, ça fait un an qu'on est ouvert et on a commencé avec un seul scanner, maintenant on en a 3. C'est des investissements qui se sont faits au fur et à mesure du temps et de la demande, et aussi des disponibilités du matériel, parce qu'il faut savoir que il n'y a pas de scanner neuf.
On n'en fait plus des Noritsu, on n'en fait plus.
Bien qu'il y a Aura Lab qui sont en train de chercher un peu à faire un nouveau scanner. Donc en fait, les problématiques sont, en tout cas, sont, c'est pas si facile à résoudre ce step de avoir vos films en un jour, c'est pas possible pour nous. Sauf si on avait très peu de clients, mais avoir avoir un film en un jour, ça voudrait dire ouais, avoir le double d'effectifs et le double de scanners, ce qui voudrait dire faire le double du chiffre.
C'est pas possible, pour rappel, hein, on est d'accord, je pense, Damien et moi, mais c'est pas possible d'avoir un résultat qui soit rapide, qualitatif et à bon prix. Je veux dire, les trois sur la même ligne. On peut pas demander à une personne, avec l'activité des labs, on salue hein, toute l'équipe de l'épisode 33, on repense à Maureen qui nous disait, bah voilà, par jour, on va pouvoir faire tant de pellicules, 80, 95 films. Vous pouvez pas demander à une personne, à un moment, avec une multitude de clients, pardon, de travailler rapidement, d'avoir un résultat qui soit hautement qualitatif et que ce soit sur un prix qui soit pleinement abordable. On parle là de... Enfin, Damien nous parle de scanner. Qu'on soit bien d'accord, on n'est pas sur les petits V600, V800 de Epson qu'on peut avoir et sur lesquels on va travailler avec Silverfast. On n'est pas du tout sur la même économie de... On n'est pas sur la même économie de moyens. Et il y a une différence entre « Oulala, c'est cool, j'ai récupéré mes scans, mes films, pardon, et mes négatifs et je vais les scanner moi-même » et une personne qui sait que sa journée, ça va être de passer... son taf, ça va être de passer sa journée derrière un écran calibré, avec un scan, ben d'ailleurs j'ai l'Imagus à côté de moi, avec un scan, et de scan du 135 ou du 120, avec une homogénéité, une régularité, et des exports qualitatifs à haute vitesse, parce que ben, des pellicules, elle en a 200 à manger aujourd'hui, donc on n'est pas du tout sur les mêmes rapports, c'est ce qui fait la différence toujours, ben, comme on dit, tu l'évoquais tout à l'heure, sur tes clients, c'est ce qui fait la différence entre des photographes professionnels et des photographes amateurs. La seule différence entre les deux, c'est que ben, le photographe professionnel, il va facturer et gagner sa vie avec la photographie. Et ben, on va dire le scanner, le laboratoire professionnel, c'est la même chose. Il va pas du tout avoir les mêmes enjeux. On arrive là sur la fin de l'année, vous venez de fêter votre premier anniversaire. Des projets déjà en tête pour... Il y a déjà des milestones, des projets, des choses que tu sais que tu veux réaliser ou que tu aimerais pouvoir réaliser en 2024 par rapport à Olab.
Bah, comme je te disais, pour moi, ça serait bien d'avoir un espace plus grand.
T'aimerais arriver ça, ça ne veut rien dire. Tu aimerais arriver à...
À ça, à ce projet-là, en fait, c'est ouais. Terminer l'année 2 et de me dire, en fait, l'année 3... Elle se fera ou ici en ayant la possibilité d'avoir le shop d'à côté. Ça, c'est quelque chose que j'aurais pu avoir parce que le propriétaire de mon local, c'est le propriétaire du local d'à côté. Et moi, je lui ai déjà dit. En fait, et là, en fait, la proposition est arrivée un mois après et je lui ai dit, mais en fait, c'est trop tôt pour moi. En fait, j'aurais pu. Mais ça aurait été au détriment des investissements que j'ai fait. Ouais, c'est-à-dire. C'est-à-dire que si t'as un autre local, ça veut dire du personnel en plus, faire des travaux, enfin voilà, économiquement parlant, c'était un peu plus risqué, quoi. Sachant que ma priorité, c'était d'investir dans un nouveau scanner pour pouvoir fournir une prestation de qualité, un pas après l'autre. Et en fait, j'aimerais bien que, voilà, sur l'année 3, avoir un espace plus grand si c'est possible. Et voilà, c'est déjà quand même pas mal.
Ouais, c'est déjà beaucoup.
C'est déjà pas mal.
C'est déjà une très très belle première année, quoi.
Ouais.
Comme tu disais toi-même, tu t'attendais pas. Enfin, quand on s'est rencontrés, il y a un peu plus d'un. Un peu, oui, un peu, presque un peu plus d'un an. Tu ne t'attendais pas à ce que. Est-ce que ce résultat soit là ? Donc c'est... Alors bien sûr, hein, c'est facile de refaire l'histoire en se disant « Ah oui, mais si j'avais su que... Si j'avais su que le succès serait tel... Bah ouais, j'aurais pris le local, mais il vaut mieux prendre le temps de grandir, et c'est ce qui transpire de cette interview et, je pense, de la manière dont tu travailles avec ton équipe. C'est l'idée de faire un pas après l'autre et de faire des pas qui soient qualitatifs, plutôt que de se dire bah, en plus on va ouvrir une galerie avec un petit espace café où les gens peuvent se poser pour venir voir les travaux des gens de la commune, tout ça. Oui, mais c'est forcément des ronds que tu mets pas dans du scan, que tu mets pas dans de la chimie, que tu mets pas dans du matériel, que tu peux pas mettre dans du personnel. Tu peux pas tout gérer comme ça. Donc ouais, le premier truc là, avoir un espace plus grand.
Ouais, c'est le premier truc, je pense que si j'avais une baguette magique, comme on disait, le prochain step, ce serait ouais, d'avoir un espace plus grand pour pouvoir justement faire grandir le projet. Parce que c'est vrai qu'on se sent un peu vite à l'étroit quand il y a du monde en bas.
Ah, mais c'est plutôt bon signe.
Oui, carrément. Mais ça peut être à des moments un peu frustrants.
J'avais pas fait une autre take depuis au moins 2 épisodes. Excusez-moi, la dernière c'était sur Bastien Vivès et Corto Maltese. Mais si tu veux parler de frustrant par rapport à un labo photo, une petite pensée pour les personnes qui font 40 mètres, 60 mètres de queue devant certains labos parisiens du côté de Nation, alors qu'il y a processus rue de la Roquette. Changez de labo, faites-vous plaisir. En plus, la team qui accueille à process est adorable. Par rapport à la communauté que par rapport au local, est-ce qu'il y a t'as des milestones, t'as des choses que tu veux voir réaliser, tu veux... Imaginons, dans 2 semaines, c'est l'anniversaire 2 de Olaf. Je vais pas arriver à pas me planter à un moment. Je vais me faire incendier par tout le monde. Dans 2 semaines, c'est le deuxième anniversaire, pardon, de Olaf. Tu veux pouvoir mettre quoi en place?
Qu'est-ce que je voudrais mettre en place? L'anniversaire 2 de Olaf? Quoi, comme je te disais, le tirage couleur. Tirage couleur RA4. Mais ça, je pense que ça va arriver.
Oui, ça arrivera.
Ça va arriver dans le courant de l'année, quoi. Tu vois, le fait de vouloir un espace plus grand, ça va dans la même direction de pouvoir accueillir une communauté dans un espace plus adapté. C'est-à-dire que, tu vois, quand on a fait plusieurs expos ici, c'est très limité, quoi. Tu vois, il y a ce côté-là où j'aimerais pouvoir développer le côté exposition pour pouvoir présenter les travaux des photographes correctement. Ça serait vraiment un kiff, quoi. De pouvoir avoir un espace galerie, parce que vraiment, comme tu disais, imprimer ses photos, c'est donner vie à ses photos, et de pouvoir les accrocher correctement, et de les présenter, de pouvoir mettre en avant le travail des autres, c'est quelque chose que j'aimerais bien pouvoir développer, quoi. Plutôt que la partie labo.
Un aspect qu'on n'a pas du tout abordé, mais qu'on va aborder, parce que c'était pas le... C'est des choses qu'on a déjà abordées avec d'autres labos en Belgique, et cette fois, je ne me tromperai pas sur le nom. Enfin, vous avez aussi ici un espace de vente de matériel. Donc, on revient un petit peu sur l'épisode 33, et tu m'arrêtes si je dis une bêtise. Olab, c'est un laboratoire argentique qui va faire du 135, qui va faire du 120, qui fait du noir et blanc, de la couleur, de la vente de films, quand même plutôt intéressant aussi pour un labo. Tu vends aussi des appareils photo.
C'est vrai que j'ai totalement oublié d'en parler.
Mais... Non, du tout. Ah non, t'as pas oublié d'en parler. C'est dans la manière dont j'ai construit le truc. C'est.
Aussi, oui, on vend des appareils photo. Voilà. Je pense que c'est pareil. Où est-ce qu'on peut trouver des appareils photo à part sur Le Bon Coin ou sur d'autres plateformes pour pouvoir acheter des appareils photo argentiques? À Marseille, il n'y a pas de boutique.
Ben, c'est un petit peu comme les scanners, c'est-à-dire que, sauf erreur de ma part, actuellement, il n'y a pas de constructeur qui commercialise du matériel. Ah si, je te dis une bêtise, mais si, il y a Leica.
Oui, il faut avoir le budget.
Oui, non, attention, non, mais attention tout de suite, si on prend des considérations financières... Mais non, enfin, vous savez, c'est la baguette magique. Non, voilà, donc, effectivement, on va mettre Leica de côté, puisque c'est... voilà, soit vous vendez 2 reins et ça va être compliqué de vivre ensuite, mais vous avez un Leica, soit vous voulez faire de la photographie et garder vos reins intacts. Hormis Leica, parce qu'on est obligé de les mentionner, il n'y a pas de constructeur qui vendent des appareils argentiques neufs en 120 ou en 120 ou en 135.
Non, c'est qu'un marché de l'occasion, en fait. Du coup, voilà, quoi. Il n'y a pas de boutique qui vende d'appareils photo argentiques. Je crois que, si, maintenant, je crois qu'à la FNAC, ils en font, il me semble. Du matériel reconditionné.
Peut-être du matériel reconditionné. Bon, déjà, quand tu vois le prix que la FNAC peut mettre sur certains packs de... La FNAC d'Arty, hein, puisque c'est le même groupe. Quand tu vois les prix qu'ils peuvent mettre sur des packs de Gold ou des choses comme ça, c'est pas forcément chez eux que j'irai acheter du matériel reconditionné sur une pratique propre à l'argentique. Après, très rapidement aussi sur ça, et j'ai souvent tendance à taper sur les vendeurs de la FNAC, parce que j'ai souvent bossé dans des FNAC, dans des rayons photo, pour des grandes marques comme Sony et Canon. Malheureusement, faut bien comprendre, et je passe très rapidement sur ça, faut bien comprendre qu'à l'heure actuelle, les vendeurs des rayons photo, ce sont plus des personnes, malheureusement, qui sont spécialisées, c'est des personnes à qui on va demander de gérer le petit électroménager, les rasoirs, les casses, les trucs comme ça. Malheureusement, vous le comprenez bien, avec l'énoncé du problème, bah, ils peuvent pas forcément tout maîtriser. On revient vraiment plus spécifiquement sur OLAB, et on oublie et on laisse la FNAC derrière nous. Le matériel photo que vous proposez, quoi comme type de matériel, il est révisé, enfin, quelles sont les conditions, on a déjà discuté, donc je sais un petit peu. Comment ça se passe et qu'est-ce que vous proposez?
On propose deux types d'appareils photo, des compacts et des réflexes. Voilà. On a eu du moyen format aussi, mais c'est très rare. Les compacts sont fournis par Compact Hunters. C'est une équipe de passionnés à Marseille qui chine des compacts, qui les check, qui les teste et qui les met en dépôt vente ici. Voilà, ils sont garantis, entre parenthèses, parce que voilà, garantir du matériel qui a 30 ans et surtout bourré d'électronique old school... et compact, donc souvent pas fait pour être démonté, remonté. Avec Compact Hunters qu'on bosse là-dessus. Et sur des réflexes, avec Tommy Datscam, un petit gars du coup que j'ai rencontré en tant que client, qui aussi s'est fait piquer par la photo argentique et qui est matrixé par ça et qui démonte les boîtiers réflexes, il refait de la petite réparation.
On n'est pas sur, mousse,
voilà, ouais. on n'est pas sur des gros travaux sur du réflexe et tout ça, bien que je pense que dans quelques temps il va y arriver, mais on a des réflexes qui sont révisés voilà, avec le shutter speed, les mousses, les optiques et tout ça.
Je sais que c'est pas loin, pareil, comprendre, hein, venant d'une grande ville. Marseille était aussi une grande ville, mais je veux dire, venant d'une ville avec une très large périphérie, la notion de loin, tout ça, tout est très différent. Je sais qu'il y a aussi, je crois que c'est Ostophoto,
ouais.
sur Aix-en-Provence.
Ostophoto, qui est, c'est un tueur, lui, il maîtrise bien son sujet. Il a déjà déposé des appareils photo en dépôt-vente ici, qu'on a vendu. Quand on a des personnes qui viennent nous demander si on répare les appareils photo, souvent on leur envoie vers Thibaut, qui est... Par contre, voilà, il est... blindé de taf, quoi.
On avait rapidement échangé autour de ça avec le Z, plus connu sous le nom de Zatax, le tatoueur fou, le photographe tatoueur fou. On avait discuté à un moment de scanner Noritsu parce qu'il y avait besoin, et on avait aussi discuté de ça avec Maury parce qu'il y avait des pièces ou des besoins de réparation. Forcément, les personnes qui sont en mesure de faire ces réparations-là, je pense qu'elles ont beaucoup de travail, et il y a un manque de pièces, il y a un manque de matériel, il y a une demande qui reste plus ou moins constante. Oui, effectivement, enfin, il doit y avoir une bonne petite pression aussi de ce côté-là, et je pense que oui, Ostophoto, il doit crouler sous le boulot.
Sous la demande, moi, c'est sûr. Hein,
parce que après, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, j'ai pas l'impression forcément que sur la région, et encore, moi, je suis tout neuf sur la région, hein, j'ai pas vu...
Bah, à Marseille, il y avait un monsieur... qui était très bon aussi, hein, mais qui est en train de fermer, je crois, hein, qui s'appelle Michel Fauveau. C'était le seul réparateur argentique à Marseille. Et du coup, c'est là que tout le monde allait, mais plus personne n'y va, car, parce que maintenant, il est tout le temps fermé. Il est ouvert peut-être une fois ou deux par semaine, l'après-midi. Les délais sont hyper longs, et puis c'est toujours très incertain. Du coup, bah, les gens ont besoin quand même de pouvoir avoir... leur matériel assez rapidement, entre parenthèses, mais quand tu confies un boîtier et que si tu le revois pas avant dans 3 ou 6 mois,
ouais, c'est
compliqué, quoi.
Bah, c'est compliqué aussi, alors peut-être effectivement, dans la gestion, non, dans la manière de faire, parce que bah, effectivement, il doit avoir peut-être beaucoup de boulot aussi, et puis c'est toujours la même petite guéguerre. Enfin, moi je suis venu avec mon petit Mamiya 645. Qui est un boîtier somme toute assez commun sur de l'entrée de gamme en moyen format, mais il y a des boîtiers où sur un soufflé de RB67 ou sur d'autres types de boîtiers, il y a des pièces au bout d'un moment, on va forcément commencer à en manquer. C'est l'autre côté, depuis tout à l'heure on parle de... je ne reviendrai pas sur ce très mauvais exemple culinaire de personne, de la photographie mangeant une raclette, mais... Ce principe de hype, de dire bah on fait plus d'argentique, on va toujours vers plus d'argentique, donc bah, ça nécessite forcément de travailler avec du matériel. Ce matériel-là, le Mamiya qui est là, il doit avoir à peu près 55 ans. Oui, il y a des pour du compact, forcément c'est compliqué, l'électronique parce qu'elle ne va pas durer pour, mais sur du réflexe moyen format 135, ça va être délicat parfois de trouver des pièces et bah oui, ok, la personne peut vous le réparer, par contre faut attendre qu'il y ait une pièce qui se pointe, quoi.
Pour te dire, j'ai eu un souci avec un scanner, Fuji SP500. J'ai une petite vitre, un dépoli sur le passe-vue négatif. Le dépoli s'est cassé, ça fait plus d'un mois que j'attends la pièce. Donc je ne peux plus me servir du scanner. Heureusement que j'en ai deux autres. Mais pour la personne qui en a qu'un, ça voudrait dire que moi, si j'avais qu'un seul scanner, bah, je pourrais plus scanner de négatif. Et j'ai fait ma demande il y a plus d'un mois, et j'attends toujours ma pièce, quoi. C'est des trucs qui sont introuvables, et c'est plus produit, enfin... Et ouais, c'est...
Et par rapport à cette... j'allais dire... C'est pas une question de fragilité. On peut pas... Actuellement, je pense pas... Enfin, je sais pas si tu seras d'accord ou pas, mais je pense pas qu'on puisse forcément parler de fragilité sur le milieu argentique. On peut parler d'incertitude, comme on disait tout à l'heure... La question de qu'est-ce que tu voudrais demander au Damien de dans deux ans, ben, est-ce que Fujifilm a recommencé à faire des films ou est-ce qu'il y a d'autres constructeurs qui auront sorti d'autres films ? Le volume d'argent, je pense, qui tourne autour de la photographie argentique, que ce soit les tirages, que ce soit les développements, que ce soit la vente d'appareils photo, que ce soit la vente de films, ces dernières années est quand même assez conséquent. Parler de fragilité, ce serait malvenu. Mais il y a une incertitude sur, effectivement, est-ce que ça va perdurer ? Comment ça va évoluer ? Par rapport, justement, par rapport au passage que tu as pu faire de l'association au modèle économique d'entreprise, est-ce que c'est quelque chose qui te revient souvent en tête ? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur ? Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis, bah, peut-être... alors maintenant, il y a le tirage photo ici, mais est-ce que tu réfléchis peut-être à un moment, dans un scénario avec plus d'espace, à proposer, du tirage type fine art, digigravy, des choses comme ça, pour te diversifier par rapport à ça ? Parce que, avant de te donner la réponse à cette très très longue question, comme d'habitude, comme tu le disais, il n'y a pas beaucoup d'acteurs. Sur Marseille.
Non, c'est sûr, mais avant de se lancer, je pense, dans le tirage fine art, tout ça, ouais, je pense que
c'est une toute autre activité, bien sûr.
Faut savoir que chaque pôle du labo, c'est un métier à part entière, limite, quoi. Que faire du développement de films, c'est 41, il faudrait déjà connaître bien sa machine, savoir quand il y a des pannes, éviter les pannes, et bien l'entretenir, les scanners, c'est pareil. Tout a son importance, et c'est vrai que c'est pas, je pense que c'est comme le vinyle, tu vois, la photo argentique, ça a toujours existé, je pense que ça existera toujours, sauf si toutes les marques de films s'arrêtent, mais je pense pas.
Je pense pas que Kodak ait prévu ça tout de suite, là.
Je pense pas du tout, je pense que ça restera un milieu de passionnés, et voilà, comme c'est des niches, comme on appelle ça. On n'est plus à l'époque de Kodak, à l'époque dans les années 80, où c'était, y avait que la photo argentique, donc c'était un méga business, quoi. Donc maintenant, c'est un secteur de niche qui ne fait que remonter en termes d'activité. Oui, pourquoi pas après se diversifier dans d'autres axes de la photographie. Mais avant tout, déjà pour nous, il faut qu'on entame l'année 2, qu'on continue à fournir du travail de qualité et voilà, continuer à surfer sur la vague en investissant notre énergie et notre amour pour la photo dans des outils qui soient favorables au traitement de film,
ouais, qui soient pertinents par rapport à l'objectif que vous voulez atteindre, quoi.
Ouais, voilà, j'ai pas envie de me cramer, quoi, en fait, j'ai pas envie d'aller trop vite.
Bon, là, vous le comprenez, on est sur la fin de l'épisode. Après, on va aborder un petit peu les actualités, où est-ce qu'on peut retrouver au lab et qu'est-ce qui va venir sur la fin de l'année, sur les mois qui viennent. Et puis, on va se quitter là. Bons amis, il y a quelque chose qui est intéressant à voir. Et donc là, c'est de la discussion ouverte, hein, avant de revenir sur les actualités et choses comme ça. C'est que, est-ce qu'au final, la photographie argentique, même dans l'idée de venir faire développer ses films et pas forcément de faire du tirage derrière, mais est-ce qu'actuellement, c'est peut-être pas le meilleur moyen, entre guillemets, ou un des meilleurs moyens pour apprendre la... pour se mettre le pied à l'étrier, pour apprendre la photographie ? En face de moi, dans les cours, dans les ateliers, j'ai beaucoup de personnes, parfois, ou quand je vais faire des photos dans des écoles pour adultes, des choses comme ça, j'ai beaucoup de personnes en face de moi qui me disent « Ah ouais, du coup, j'ai envie de me mettre à la photo, tout ça. » Alors, j'ai vu un boîtier, et c'est toujours des noms de boîtiers qui sont... C'est jamais, si tu veux, des boîtiers qui sont en entrée de gamme. On n'est jamais dans l'entrée de gamme amateur averti, on est toujours dans du expert pro, sauf que... À part des personnes qui ont beaucoup d'argent, et même le fait d'avoir beaucoup d'argent ne changerait pas la bêtise de la chose, une personne qui s'achèterait un 5D Mark IV avec un kit 24-70 pour apprendre, pour commencer la photographie, c'est dommage, j'ai envie de dire, parce que fonctionnellement, il y aurait d'autres boîtiers beaucoup plus abordables et qui permettraient, sur le delta économique, d'acheter peut-être un 50 mm fixe, un 28 mm fixe, des trucs pour se faire plaisir et progresser. Est-ce que actuellement, la photographie argentique, avec des boîtiers qui sont souvent beaucoup plus simples, parce que beaucoup plus limité, c'est peut-être pas le meilleur bail pour découvrir, pour apprendre. Et comme tu le disais, et on revient à ce qu'on disait sur le début de l'épisode, il y a ce côté, si tu prends la chose à bras-le-corps, il y a ce côté médium-média qui sont très très liés, qui sont complètement imbriqués, et l'un t'emmène vers l'autre, là où, quand t'apprends à shooter avec ton numérique, ouais, après, ton ordi, ton Lightroom, ton Capture One, mais t'as moins ce côté, t'as moins ce côté médium en fait qui sort.
Je pense pas qu'il y ait
de bons ou de mauvais appareils.
Je pense pas qu'il y ait de bons ou de mauvais appareils pour apprendre la photographie, que ce soit du numérique ou de l'argentique. Je pense que c'est une question de budget et je pense que c'est une question de la manière dont on voit les choses et comment on investit son argent. Acheter un 5D Mark IV, forcément, ça a un coût. Je pense que c'est plusieurs milliers d'euros.
C'est de mémoire comme ça, un 5D Mark IV à peu près actuellement, c'est boîtier nu, c'est 2500€.
Voilà, 2500€, plus une optique, plus une carte mémoire, plus une batterie en plus un ordi qui va bien, forcément, plus un disque dur, donc ça chiffre vite, quoi.
Ouais, bien sûr.
Après, le truc qu'il y a, c'est qu'il y a le plaisir instantané de la photo numérique, c'est-à-dire que les gens ont l'impression de... Forcément, ils ont investi 5000 balles, par exemple, et d'un coup, ils vont faire des centaines et des milliers de photos en rafale, pas en rafale, ils vont pouvoir plus vite capter et se faire plaisir, entre parenthèses, dans la photo. Ils vont dire, voilà, ouais, j'ai fait des super photos. Alors qu'avec l'argentique, c'est sûr que c'est chaque photo a un coût direct. C'est-à-dire que, voilà, acheter un réflexe à 100 balles, on en a avec une optique. On achète un film à aller entre en moyenne 15€. Plus après faire les photos, on voit pas ce qu'on fait, et après lâcher des sous au labo aussi pour pouvoir avoir les développements plus des scans, ça a un coût aussi, mais c'est pas la même approche, quoi. Donc d'un côté on a un gros budget qu'on lâche d'un coup et on a le visu direct, et d'un autre côté il y a une autre démarche. Quelle est la plus formatrice? Moi je dirais que c'est celle de l'argentique, parce que pourquoi? Parce que du coup ça ramène à réfléchir avant de déclencher, plutôt que... Voilà, après, tu peux aussi ne pas réfléchir avec la photo argentique en achetant un compact. Tout automatique, il n'y a que le cadrage qui compte, et on s'émancipe de la technique. Après, voilà, c'est... Je pense que les deux sont bien, il faut juste comprendre ses besoins en tant que photographe, quoi. Parce que quand les personnes viennent au magasin et me disent « Ouais, je vais m'acheter un appareil photo, j'y connais rien », je lui dis, tu sais, c'est comme une voiture, un appareil. Enfin, je veux dire, je fais des analogies, quoi. Une montre, que ce soit une Rolex ou une montre bidon, elle donne de l'heure. Une voiture, que ce soit une Renault 5 ou une Porsche, elle va d'un point A à un point B. Mais après, il faut connaître ses besoins, savoir pourquoi est-ce qu'on veut tel ou tel boîtier, quelle est déjà la limite du budget, qu'est-ce qu'on veut, est-ce qu'on veut pouvoir le mettre dans sa poche, est-ce qu'on veut pouvoir se trimballer un moyen format tous les jours. C'est des choses qui sont à prendre en compte, quoi. Sinon, ça finit sur une étagère et dire en fait non, c'est trop frustrant, je l'utilise jamais et puis ça sert à rien, quoi.
En termes d'actualité, donc on vient de passer l'anniversaire de Olab, joyeux anniversaire. Est-ce qu'il y a des choses prévues sur la fin d'année, au moment des fêtes, pour le début de l'année prochaine?
Est-ce qu'il y a des choses prévues? Là, en fait, on vient tout juste d'annoncer notre service de tirage. Donc ça, c'est
quand même... Il y a quelques jours, je crois que j'ai vu.
Voilà, on l'a annoncé...
Il y a 48 heures ou 72 heures,
c'est samedi. Donc voilà, ça c'est tout nouveau.
Donc est-ce que tu peux juste nous parler rapidement de ce service de tirage que vous faites?
En fait, c'est le service de tirage classique. Les personnes qui déposent des pellicules souvent veulent des petits tirages 10-15 pour avoir à l'ancienne, quoi, des petits tirages de lecture, mais qui vont avec leurs souvenirs, quoi. Mm-hmm. Donc on a investi dans une imprimante Fuji pour pouvoir faire du tirage 10-15 jusqu'au 20-30. Donc pour l'instant, ouais, c'est deux formats, quoi.
C'est déjà, voilà. c'est déjà bien. Enfin,
un pas après l'autre.
Ça complète l'offre. Voilà, ça complète l'offre. Je te vends un film, tu shootes, je le développe et tu peux imprimer ton résultat.
Quoi. Voilà, c'est le step qu'on passe. Nouvelle grille tarifaire, justement, avec la prestation du scanner Noritsu, où on peut aller plus loin dans les résolutions. Et puis, pour le début d'année prochaine, je pense que le tirage RA4, ce sera sûrement dans les clous, quoi. Ça dépend si j'ai réussi à trouver la pièce pour réparer la machine.
Ouais, c'est le RA4, c'est vraiment le prochain. Je veux dire, c'est vraiment la prochaine flèche. Oh, il est malin, il revient sur l'archerie, beau gosse. Le RA4, c'est vraiment la prochaine flèche que tu vas mettre dans ton carquois.
Ouais, je pense. Après, c'est pareil, il faut qu'il y ait de la demande. Parce que c'est de la chimie. Donc, s'il y a peu de demande, la chimie, malheureusement, elle s'épuise et. Ah non, mais tu vois. Donc, j'espère que le public marseillais sera au rendez-vous sur le tirage RA4. J'ai déjà eu pas mal de demandes, hein, mais bon, voilà. Après, c'est voilà, continuer à avoir un esprit de communauté.
Faire grandir la communauté, accompagner la communauté.
Ouais, accompagner la communauté, peut-être faire un peu plus d'événements, peut-être mettre en place des petits apéros lab, c'est-à-dire un rendez-vous mensuel. Pour discuter de la photo, simplement autour d'un verre, au shop, tranquillement, connecter les gens, quoi.
Ouais, je comprends.
Simplement, quoi.
Ouais, des personnes qui présentent leur travail, ou une série, ou...
Exactement. Un moment convivial.
En termes de réseau, je les mettrai naturellement. Si vous les notez pas, si vous les retenez pas, c'est pas grave. Vous n'aurez qu'à regarder le billet sous ce podcast, que ce soit via Podcast Addict, que ce soit Apple Podcast, Spotify, tout ça. Vous avez les infos, donc vous pourrez retrouver Olab via ces infos-là. En termes de réseau, donc on peut vous retrouver via le site Olab. Olabphoto.com, via l'Instagram. Merci beaucoup de ton temps. On a très très peu savonné. C'est plus moi qui ai savonné sur des mots ou des expressions, des choses comme ça. On a très très peu savonné. Je pense ça va être beaucoup plus facile du coup pour moi pour le montage. Merci beaucoup de ton temps et de ton accueil, Damien, puisqu'on est là à l'étage de Olab, tranquillement en train de finir d'enregistrer cet épisode. On ne peut que te souhaiter et que souhaiter à l'équipe d'Olab une formidable fin d'année. Cet épisode va arriver en décembre, hein, parce qu'il y en a quand même 2-3 autres au portillon que je dois finir de taffer avant, mais celui-là va arriver en décembre. Une très belle année 2, et j'imagine qu'on aura le plaisir peut-être d'enregistrer d'autres trucs ensemble autour de ça. Merci beaucoup de ton temps.
Merci à toi.
Merci de votre patience sur... le temps pour sortir des épisodes, ça prend du temps aussi, on va pas revenir sur ça. Passez de très bonnes fêtes et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de No Filter Podcast. C'était Gozer, c'était Damien de Olab Photo. À très bientôt, prenez soin de vous. Salut, salut.
À bientôt, ciao.